Salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD en direct sur radiopfm.com et Radio PFM 99.9. Avec moi ce soir Thibaut.
Bonsoir Nico, bonsoir Franck.
Et Franck,
bonsoir les amis.
Programme chargé ce soir, puisque tu es bleu toi.
Ouais, c'est ça, parfait,
tu
parfait.
Tu es bleu, tu perds contre la Suisse.
Perfect.
On va commencer tout de suite. Franck, tu vas nous parler de Gideon Falls qui vient de se terminer chez Urban Comics.
Yes, sorti de ce tome final le 25 juin, donc c'est assez frais. Ce cinquième tome de...
du troisième type pour une rencontre. Et on a perdu, on n'a pas pu dans le retour.
Si, là, non.
Alors,
là,
non.
Si, et... si, ça y est.
Si, si, là, vous m'avez.
Ouais, très légèrement.
Mais que d'imprévus.
C'est... Alors, on se posait la question si c'était la dernière de la saison.
Non, on va faire virer avant la fin.
Je pense que ça... il est temps qu'on se repose.
Moi, j'ai l'impression plutôt que vous êtes en train de me faire un coup pour illustrer Gideon Falls et ses univers parallèles. C'est parfaitement.
Oh, comment tu spoil?
Ben non, c'est dans le tome 3 et 4 que tu l'apprends, ça déjà. Mais bon, on va peut-être commencer par... Si, j'ai tout relu.
Ah ouais, non mais...
Donc, c'est un album paru chez Urban Indies. Ah, tiens, je m'entends nettement mieux. Urban Indies. Scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Andrea Sorrentino et colorisé par...
Colorié.
Avec ses petites mimines par Dave Stewart, puisqu'il n'avait plus envie de chanter.
Putain, c'est nul.
Désolé. C'est la dernière. Et alors, ça va être compliqué de vous résumer tous ces albums. Alors, on va essayer quand même le tome 5 final et je vais pas vous le résumer celui-là, mais plutôt les précédents. Coupez vos téléphones.
Ouais, c'est fait.
Merci. Donc, ça raconte l'histoire de Norton Sinclair, un jeune homme un peu déglingué, un peu perturbé, très paranoïaque, qui vit avec un masque, sachant que ça date d'avant le Covid, hein, ouais. Donc avec un masque sur le
FFP2,
visage,
hein.
Oui, exactement, et qui est suivi par une psychiatre, Dr Xu.
Lucy Liu, quoi.
Voilà, une jeune asiatique.
Qui ressemble très pour trait à Lucy Liu.
Il y a un peu de ça, ouais. Mais toi, t'es fan aussi de la série télé Sherlock Holmes avec elle, c'est pas ça?
De Lucy Liu.
D'accord.
Quoi qu'elle fasse.
Et donc, qui la suit depuis sa sortie d'hôpital. Et lui, un petit toc, un grave toc même, c'est qu'il fait les poubelles à la recherche d'éléments, clous, morceaux de bois, qui ressemblent à rien, ces morceaux de bois, mais qui sont pour lui des éléments, les éléments constitutifs pardon, d'une grange noire, qui serait la clé d'un mystère, d'une conspiration... enfin, qui ne comprend pas lui-même. Et parallèlement à ça, on suit un autre personnage qui s'appelle le père Wilfred, surnommé Fred. Le père Fred qui a envoyé dans une bourgade, alors Midwest américain, vraiment le truc bien pourrave, dans cette bourgade parce que le prêtre qui officiait est décédé. Donc il vient pour le remplacer, c'est un peu l'instit des prêtres. Quand il y a un manque, il y va. Et donc il va s'occuper de sa nouvelle communauté, sauf que quasiment dès le premier jour, il va avoir une apparition, non pas divine, mais plutôt sinistre, d'une grange noire. Et vont commencer une apparition ponctuelle. Hein.
Ouais, parce qu'il y a déjà sa voisine qui a une main bizarre.
Une main bizarre.
Ouais, c'était pas mal marqué ça.
La main de la voisine, non, je m'en souviens.
Elle a une espèce de main mécanique crochet.
Et donc, non, et donc t'es contre les personnes qui ont des handicaps physiques.
Ça crée
c'est
un
c'est une prothèse, bizarre, mais c'est pas une apparition en tout cas.
Ouais, non, mais ça crée un... Enfin, tu t'attends pas à ça.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, bah elle a une prothèse, ouais, et alors bon, bref.
On passe, on continue, run.
C'est pas grave. Donc, et différents événements dérangeants vont commencer à survenir dans cette bourgade. Ça, grosso modo, c'est le tome 1. Dans le tome 2, on va découvrir que Xu, le docteur Xu, commence à avoir les mêmes apparitions, la même vision que Norton. Et puis on découvre aussi que la ville dans laquelle vivent ces deux personnages, une ville vraiment la grande cité, hein, très, très urbaine, s'appelle aussi Gideon Falls. Et on commence à se dire, mais c'est quoi ce bordel?
Ça, on l'apprend à la fin du tome 1. C'est la dernière planche.
C'est pour ça que je parle du début du tome 2. Là.
Parce que le patelin du père Wilfrid, c'est à Gideon Falls.
Gideon Falls, il y a donc deux Gideon Falls. Ouais. Alors, est-ce que c'est deux villes différentes? Est-ce que c'est la même à une époque différente? On commence à se poser des questions. Et les convictions de la psychiatre commencent à s'effondrer au vu de ce qu'elle commence à découvrir autour de Norton. Et à deux, ils essayent de rassembler les pièces du puzzle, sachant qu'on va aussi découvrir pendant ce temps-là, dans la bourgade, on va découvrir qu'il y a de plus en plus de disparitions et de meurtres violents. Et autour du Fred, du prêtre, du père Fred, gravite aussi une organisation secrète qui œuvre contre la grange, qui s'appelle les Laboureurs. Là, on commence à avoir plus d'éléments qui commencent à graviter, les morceaux de puzzle se mettent à plat. On a un médecin qui fait peut-être partie des Laboureurs, on ne sait pas trop. Il y a une flic qui s'appelle Clara Miller, qui essaye d'enquêter sur ces meurtres ou ces disparitions. On est dans un univers qui est quand même très malsain, très... très particulier, pour autant lisible graphiquement, mais très
horrifique,
dérangeant.
C'est horrifique.
Mais très dérangeant. Et on en arrive à un point progressivement où ceux qui croient en la science sont totalement perdus parce que ce qu'ils constatent ne répond à aucune base, à aucun fait possible, plausible dans l'univers, normalement structuré, on va dire. Et ceux qui croient en Dieu sont perdus de la même manière parce que ce qu'ils constatent va complètement à l'encontre de leur croyance. Donc croyance ou convictions sont mises à mal dans cette réalité, on va l'appeler comme ça. Donc le tome 3, on comprend que la grange, la fameuse grange noire, est la source de tous les maux, tandis que Norton Exu commence à recomposer la porte de la grange à partir de tous les morceaux qu'il avait recueillis un peu partout, en espérant créer quelque part une porte d'accès à un autre monde. Enfin, il essaie de percer le mystère, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Fred, de son côté, enquête sur... peut-être le malfrat qui serait à l'œuvre derrière tout ça, un certain Joe Reddy, il essaye de comprendre la disparition, lui, de Norton Sinclair. Tiens, donc Norton Sinclair, qui est dans l'autre, dans la ville, aurait disparu dans la bourgade. On commence à se poser pas mal de questions. Et en fait, dans ce tome 3, Fred et Norton, donc le père Fred et le jeune homme Norton, vont finir par se croiser, mais on ne sait pas où, on ne sait pas trop quand. Et là, on commence à avoir des éléments où, quand on met le cerveau en marche, on a des pistes. On ne sait pas encore trop. Si je vous dévoile le tome 4, ça va commencer à faire beaucoup. Mais en gros, pour résumer, tout s'éclaire pour le lecteur et tout s'obscurcit. Pour les personnages, ils sont ballottés dans tout sens. Il y a d'autres personnages secondaires qui vont se greffer à ça. Je pense à l'évêque ou à l'archevêque, je ne sais plus ce qu'il est, Burke. Je pense à la prostituée dans la ville, parce qu'on va découvrir d'autres Gideon Falls. Il y en a une dans un western, il y en a une dans une ville à la 1984. C'est très particulier. C'est en ça qu'on peut penser ou pas à des univers parallèles, ce que je disais en introduction, à vous de vous faire votre idée à ce stade de la lecture. Et au final, ce tome 5 vient clairement vous expliquer, mais en même temps vous montrer le final, où tous ces personnages vont se croiser, se décroiser, se recroiser, sans faire de gamin, sans faire de cochonnerie. Et on a une fin, une vraie fin, c'est-à-dire qu'on n'est pas, même s'il y a un peu... une fin ouverte, je qualifie comme ça, on n'est pas laissé sur sa fin. Compliqué à expliquer. Moi, je trouve qu'il a su conclure son histoire. Certains diront, en expliquant peut-être trop, c'est assez curieux la manière dont il le fait, parce que au travers des discours des personnages, Jeff Lemire fait le choix de tout justifier.
C'est parce qu'il doit le faire en série télé et le public américain est bête, donc il faudra tout expliquer dans la série télé.
C'est pour ça.
Non, il en a parlé. Regardez ce qu'a donné Sweet Tooth d'après Jeff Lemire. Comparer le comics et la...
Mais à ce moment-là, s'il avait une explication, pourquoi il n'est pas resté sur un truc plus fou pour sa BD et en ayant en tête le truc bien expliqué pour la série télé? Il pouvait aussi faire des choses différentes.
Pourquoi il cautionne Sweet Tooth alors que c'est l'opposé de façon caricaturale de la BD?
Je sais pas, Sweet Tooth, moi je connais pas. Donc,
il y a de l'argent à se faire dans la télé, donc il s'adapte.
Tu justifies ça? Enfin, tu penses qu'il a bâclé son...
Ah non, il a pas bâclé. Je pense que, moi, j'ai lâché la série à partir du moment où il a commencé les explications, donc à la moitié du tome 2. ça a été...
Tu trouves qu'il explique au tome 2?
Il commence déjà à expliquer le tome 2, et moi, c'était le début de la déception qui a été grandissante jusqu'à la fin.
Alors, explique-moi, t'as lu la suite quand même ou tu t'es arrêté au tome 2?
Je suis allé jusqu'au bout et je vais balancer...
T'as dit j'ai arrêté de lire.
Non, mais non, ça m'a arrêté de m'intéresser. Je vais garder le tome 1 qui est un one-shot qui suffit à lui-même pour moi, avec pour le coup une fin ouverte. Ça ne me dérange pas et les 4 autres tomes, je les ai filés.
Alors tu vois, moi je vais mettre ça en parallèle avec, comment elle s'appelle, ce manga avec en format souple, un peu cuir, l'adaptation de Cthulhu et tout ça.
Ouais, j'ai oublié. Bah, les mondes de Lovecraft.
Ouais, enfin c'est pas ça le titre que j'ai en tête, mais...
Si, c'est la collection, c'est ça. Après c'est quel
tome? Bah, les premiers.
Les Montagnes Hallucinées.
Merci, les Montagnes Hallucinées, c'est ça que j'avais en tête. Où on n'explique rien, on est dans du constat, on comprend pas ce qui se passe. Tu te sens concerné ou pas? Moi, au bout d'un moment, j'étais perdu. Enfin, pas perdu, mais j'y voyais plus d'intérêt. Moi, je trouve que à vouloir, à minima, structurer son récit, oui, peut-être qu'il en dit trop, mais au moins, tu es sûr de savoir de quoi tu parles. À structurer, moi, j'y trouve un vrai intérêt qui est que, au moins, enfin, au contraire, il ne te prend pas pour une muse. Il ne fait pas un truc où il n'a pas besoin d'expliquer, donc il reste dans le flou.
Alors, tu n'as pas trouvé que ce tome 5, justement, sans en parler plus, mais à la lecture des explications de fin d'album, le tome 5, c'était une agglomération de tout ce qui est... En fait, il fallait mettre dans ces pages tout ce qui était justifié en fin d'album. C'est-à-dire qu'en fin d'album, il y a une explication très claire, même schématique à certains moments, de comment...
En dehors de l'histoire, tu veux dire, dans les pages additionnelles?
Ouais. Alors, il y a, graphiquement, il y a des choses très... à la fois nouvelles, parfois dérangeantes à la lecture, parfois illisibles, des associations d'images à travers des cubes, comme si... quand on est enfant, on découpe, on fait plusieurs carrés, là on fait un patron et puis on vient recoller chaque face du dé. Y a des cubes comme ça où les histoires prennent place sur les différentes faces de plein de cubes. Ça, c'est difficilement lisible et compréhensible. Est-ce qu'à un moment, ça vient pas illustrer toute une série d'explications qui est donnée, c'est-à-dire que les auteurs ont leur postface explicative, et derrière, au milieu de l'histoire, il y a des doubles pages comme ça qui surgissent pour tenter d'expliquer leur idée.
Après, l'émir a toujours dit qu'il savait comment ça finissait, et que entre le premier tome et le dernier, il savait pas comment il développerait son truc.
Parce que par là, moi je veux dire que j'ai trouvé qu'il y a des pages qui servaient à rien pour moi. Qui m'ont sorti du récit, qui n'ont absolument rien apporté narrativement parlant. Graphiquement parlant, j'ai trouvé ça parfois original, parfois sans intérêt. Et je trouve que le tome 5 en accumule plus que les autres, même si c'est un album dense, hein, je ne sais plus combien il fait de pages, mais c'est quand même assez épais.
Il est dense parce qu'il regroupe les tomes 4 et 5 américains. Enfin.
Ouais. 200. Mais moi j'ai pas eu ce sentiment parce que je trouvais ça super intéressant. Je pense que si on réécoutait la critique du tome 1, tous les choix graphiques et même des tomes suivants, tous les choix graphiques initiaux sont à mes yeux super intéressants parce qu'ils te questionnent l'histoire des cubes, l'histoire des symétries, il y a plein de choses de spirales, de jeux jeu de lignes. Donc pour moi il avait son idée en tête dès le départ, de lignes temporelles ou de lignes de monde, enfin bref on va pas trop en dire non plus, même si on l'a déjà fait. Par contre, nous, on le devine progressivement. Donc peut-être que les explications pour nous sont en trop, pour peu qu'on y réfléchisse et qu'on ait trouvé la bonne solution. Pour ceux qui étaient encore dans le doute, ça permet d'éclaircir les choses. Mais surtout, je trouve qu'il le fait de manière assez intelligente, à savoir qu'il l'explique pour ses personnages. Il y a des personnages qui, dans l'histoire, qui ont très bien compris, qui sont au fait de tout, qui sont plus près du centre. Voilà, si tu l'as lu, tu vois ce que je veux dire. Et qui sont en capacité d'expliquer à ceux qui sont loin du centre, qui sont en capacité d'expliquer ces différentes... Et donc, finalement, tu vois que dès le début, de par la représentation graphique, il avait sa solution. Donc, ça fait écho à ce que disait Nico à l'instant. Et il continue à jouer quand même avec l'histoire de symétrie horizontale entre le dessus, le dessous, en gros le paradis, enfin le réel et le fantastique ou l'enfer. Il joue pas mal avec ça, donc oui, il explique tout, mais ça m'a pas perturbé, même si en plus il n'y a pas question de deviner ou pas deviner, c'est ça a clarifié les choses à mes yeux, et il est allé au bout de son histoire sans vouloir te faire prendre des vessies pour des lanternes, ou à te dire je précise pas mon idée parce que de toute façon je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas ce que ça cache.
Ah non, mais j'ai trouvé ce tome 5 peut-être un peu plus je l'attendais plus dense, mieux structuré. Là j'ai trouvé qu'il y avait des trous d'air dans ce tome 5 qui m'ont sorti, moi aussi je l'ai lu d'une traite hier soir, donc c'est tout frais, mais qui m'ont sorti un peu de l'ambiance qui est encore une fois, comme tu le disais, noire, rouge, horrifique, angoissante.
Bah, malgré ça, moi je voyais pas comment ça allait finir. Des histoires comme ça, souvent tu t'en doutes. Bah là, pour moi, c'était pas clair.
Après, le mystère qui entoure cette histoire, c'est plutôt ces Gideon Falls multiples, où on ne sait pas, comme tu le disais, si on est en flashback ou à autre chose. Et pour moi, c'est celui-ci le mystère principal. Presque la grange, c'est presque secondaire, et ça revient sur la toute fin.
Alors on en vient à l'intérêt de la lecture, qui pour là ce que tu évoques pour moi c'était un outil scénaristique, et quoi qu'il arrive à la grange ou à ses univers ou à ses temporalités différentes ou bref, moi ce qui m'intéressait c'était les personnages, savoir ce qu'ils allaient devenir. Et je trouve qu'il m'a amené, il m'a donné envie de m'intéresser, enfin j'étais intéressé par eux. J'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Et pour moi rien que ça c'est une réussite dans un univers aussi complexe.
Ouais.
Après, ça reste pas l'album, je le mettrai pas dans mon top 10 en fin d'année, voilà. Mais j'ai trouvé ça super bien fait, et je me suis pas arrêté au tome 2.
Mais c'est une série ambitieuse, hein. C'est une série ambitieuse et un peu hors code.
Moi, je perds quelqu'un son ambition à vouloir expliquer, à trop expliquer, littéralement.
Non, mais
c'est quelqu'un d'intelligent et que t'as pas besoin d'explication,
si
peut-être.
Tu veux, c'est pas que ça, c'est au départ, il dit ma référence c'est Twin Peaks, Twin Peaks n'explique rien.
Non, et puis, ouais, alors après, c'est peut-être pas la référence
Alors, moi, franchement, moi, ça commence à me gaver de dire, il a dit ça en dehors, il a fait ça en dehors, il dit que sa référence... On te fournit un album...
Non, mais alors, en ce moment-là, tu mets pas la préface, il y a une préface de l'auteur, la moindre des choses, c'est de la lire, c'est au moins aussi important que s'il y a...
Le Twin Peaks, c'est dans le tome, tome
1 ? Non, dès le premier, il en parle, ouais.
Dans le tome 1 ?
Ouais.
Et si t'as pas lu Twin Peaks, tu fais quoi, ou si t'as pas vu ? Si tu l'as pas vu, tu fais quoi ?
Tu rattrapes rapidement. La même manière, ça, pour
moi, moi je l'ai pas vu, ça m'a, je m'en tape.
Mais pareil,
je m'en tape. Le mec, il peut s'inspirer de qui il veut. Il me raconte son histoire. Donc il s'est inspiré. Il y a plein de gens qui s'inspirent de plein de trucs. Un auteur contemporain ne peut pas faire autrement que d'être inspiré, même s'il en a pas conscience. On est tous nourris au même titre que nous lecteurs, on est inspiré par tout ce qu'on a lu. Ça, c'est évident.
Et c'est pour ça que pour moi, les notes de fin d'album, les explications d'après le mot fin, ne m'intéressent pas. Ne m'intéressent pas pour je sais, mais là, je fais écho à ce que disait tout à l'heure Thibaut sur le surplus d'explications qu'il peut y avoir à la fin. Pour moi, je me fais mon idée de l'album indépendamment de ça.
Mais t'as eu raison de pas le lire. Enfin, je sais pas si tu l'as lu ou pas, mais
j'ai fini par le lire. Si.
Bon, c'est.
Mais c'est redondant.
C'est redondant et c'est presque. Et c'est presque. En plus, il y a des choses qui collent pas. Il y a des choses qu'ils expliquent et qui ne correspondent pas à, en tout cas, moi, à ce que j'ai lu et ce que j'ai compris. Donc,
okay,
bref,
on
voilà.
va faire la première pause musicale.
Gideon Falls, oui. Urban Indies, c'est ça.
Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, Dave Stewart.
À lire.
Bah, pour moi, c'est à lire quand même.
Les Dandy Warhols, Get Off en première pause musicale. But all I wanna do is get off and feel the fall.
like it or not, like a ball in a chain. All I wanna do is get off.
De la
deuxième partie des gardiens de la BD. Toujours en direct.
Ouais, ah, désolé.
Et puis, de toute façon, comme il n'y a pas de montage, la rediff.
Non, il n'est pas passé en direct.
Ah, limite.
Non. Je l'ai synchronisé avec ta pression.
Thibaut.
Pas tout à fait. Oui, dis-moi.
Tu vas nous parler de Lock and Key.
Oui, bah faisons les... évacuons tout de suite.
Les BD qu'on... ouais. Comment dire qu'on va dont on va débattre.
Non, mais il paraît qu'on dégaze là, donc...
On dégaze, ouais.
Lâchons du lest. Donc je vais vous parler de Lock and Key, qui est un album qui est sous-titré entre... enfin, Ciel et Terre.
La série Netflix.
Qui fut précédemment une série en papier,
ah bon,
comme beaucoup de contenu Netflix. C'est édité chez iComics, c'est une des collections, c'est Bragelonne. Milady avant, scénario Joe Hill, dessin Gabriel Rodriguez. Alors Lock and Key, c'est une série en 6 tomes qui est parue en France entre 2010 et 2014. C'est l'histoire de la famille Locke qui vit dans son manoir qui s'appelle Key House. Qui est situé sur une presqu'île qui s'appelle Lovecraft. Et après le meurtre brutal de leur père, les enfants Locke se retrouvent seuls avec la mère dans l'immense demeure familiale qu'ils avaient quittée pendant un moment et qui retrouvent après...
Je rappelle, quand tu parles des enfants Locke, c'est le nom de famille.
Oui, c'est le nom de famille, L-O-C-K-E.
T'en fais une belle de Locke, toi.
Oui, je sais, mais on est bien à trois, c'est pour ça.
Ah, tout à fait.
Et d'ailleurs, il faut éponger avec la Locke.
Donc, ils arrivent.
Et donc, ils retrouvent le manoir familial et ils commencent à découvrir les secrets que la demeure recèle, une collection incroyable de clés au pouvoir déroutant. Alors, il y a la clé de tête, moi, c'est une de mes préférées, qui permet d'ouvrir le crâne ou d'ouvrir, enfin, de soi-même ou d'ouvrir le crâne de quelqu'un et soit à sa guise dans le des angoisses ou alors d'en glisser, d'y glisser du savoir.
Déjà avant ça, d'observer l'intérieur du...
Ouais, parce que le crâne s'ouvre et on voit...
les idées, le contenu, les perversions,
les complètement.
Envies.
Et on peut donc subtiliser des souvenirs, en glisser d'autres, les manipuler. Voilà. Il y a la clé de genre, alors là on ouvre une porte avec, il suffit de passer le seuil de la porte et on passe de fille à garçon et inversement. La clé de titan qui transforme son utilisateur en géant. Bref, il y en a quantité d'autres. Il y a quelques albums, je crois que c'est à partir du 3e tome ou 4e, où une sorte de glossaire en fin de tome avec qui répertorie toutes les clés. En tout cas, une bonne partie. Okay. Alors, ce tome-là, donc Ciel et Terre, c'est pas la suite de la série qui est clôturée, mais plutôt un hors-série. Il rassemble trois histoires courtes, voire très courtes, qui nous replongent alors avec plaisir dans l'univers de la famille Locke. La première histoire, ça se passe en 1912. C'est celle de Chamberlain Locke et de son fils Yann.
Parce que l'histoire originale se passe à peu près à notre époque.
Ouais. À peu près. On fait quelques incursions dans le passé parce que c'est important à certains moments de l'histoire de renouer avec la trace des ancêtres.
La génération précédente.
Ouais.
Mais ça monte.
Et là, on remonte en 1912. Donc, Chamberlain Locke, son fils Yann. Yann est extrêmement malade et ça l'empêche de vivre normalement. Et ce qui le contrarie le plus, et ce qui contrarie le plus son père aussi, c'est que Yann ne peut pas vivre d'aventure comme ses ancêtres. Alors, il cite quelques-uns de ses ancêtres qui ont été qui ont fait des campagnes de guerre, qui ont vécu des aventures à l'étranger, qui ont parcouru le monde, etc.
Oui, parce qu'en 1912, vivre une belle vie, c'était faire la guerre. Et...
ouais, bah oui, le curseur était différent.
Voyager en transatlantique aussi, 1912.
Ouais, faire du bateau et barboter. Et donc, Yann, il est extrêmement cultivé. Et son père va se mettre en tête de l'emmener voir la Lune. Alors c'est, j'en raconterai pas plus, mais c'est une histoire très poétique, que j'ai trouvé très poétique, de un photo finish, voilà, qui tranche vraiment avec l'angoisse et la violence qu'on retrouve habituellement dans la série. C'est une histoire qui lève également un petit peu plus le voile sur la fabrication des clés, et ça c'est un des points très intéressants. La deuxième histoire, elle doit se dérouler dans les années 40 ou 50 à peu près. On a un groupe de cambrioleurs qui se dirigent vers le manoir des Locke. L'un d'eux a été leur jardinier pendant quelques années, dans les années 40-50 à peu près. Et il a été témoin des richesses de la famille. Et l'idée, c'est de faire un coup double. Après avoir braqué un lotissement de résidence balnéaire, les malfrats veulent se servir de l'embarcadère de la propriété des Locke pour s'enfuir. Et quitte à attendre leur navire d'évasion, eh ben, autant profiter des trésors de la demeure. Mais est-ce qu'ils sont seulement au courant de chez qui ils sont tombés ? Alors, des trésors plutôt charnels, a priori. Alors, le style graphique de la deuxième histoire, il est déroutant. Gabriel Rodriguez, il sort de son style habituel. Alors, pour y revenir dans la troisième et dernière histoire.
La deuxième, il est plus dans le style IC Comics, les vieux trucs d'horreur des années 60.
Ouais, ouais, ouais.
Je vois pas
du tout. The Tales from the Crypt.
Ah, d'accord. Oh, oui. Mais il avait fait des incursions un peu comme ça dans la série originale, dans des flashbacks où il y a.
Ouais.
Il
s'était on a presque l'impression au départ de regarder un épisode télé, tu sais, comme si tu t'allais faire un dézoom pour voir tes héros regarder une téloche ou. Ben non. Donc, troisième histoire, on retrouve Kinsey, Tyler et Bodhi, les enfants. Locke.
Deux des enfants.
Trois. Kinsey, Tyler Bodhi.
Pardon.
Et ils sont à la recherche d'une nouvelle clé dans le parc qui entoure la propriété familiale. Alors, c'est une histoire très courte, trop courte, qui fait 6 pages. voilà. Et alors, l'intérêt m'a paru en tout cas tout relatif. Le seul plaisir qu'on en retire, c'est de revoir les héros qu'on a suivis pendant les 6 tomes de la série. Ça en est presque frustrant. Alors c'est d'ailleurs moi le sentiment général de tout cet album, la frustration. Pour moi, l'erreur fatale, c'est l'ordre des histoires. Ça va complètement décrescendo. C'est-à-dire qu'on va dans quelque chose d'extrêmement émouvant et poétique.
Ah oui.
Ensuite, on est sur une histoire assez dynamique, mouvementée, palpitante, pour finir sur on retrouve nos héros dans un truc de 6 pages. Où il se passe pas grand chose, voire rien. Donc pour moi,
je sais plus si c'est le truc de 6 pages, mais c'était pour l'anniversaire de IDW. Il y a une des deux, je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième.
Quand t'agglomères,
mais t'as plein de persos dans ta Tank Girl qui apparaissent et compagnie. Enfin, c'est juste un truc promotionnel.
Ouais, mais quand
quelle que soit l'explication,
quand t'agglomères différentes parutions, tu les agglomères en réfléchissant à l'effet que ça va produire à la lecture de se condenser. Et à un moment, pour moi, c'est vraiment dans le mauvais sens. Le cahier supplémentaire de fin d'album,
il fait la moitié de l'album presque.
Il fait voilà, il est
ah, parce que,
quatre fois plus long que la dernière histoire.
48 pages.
Alors c'est pas trois histoires de 6 pages.
Non, j'ai bien compris ça.
Mais
justement, ma question c'était les trois histoires constituent à peu près combien de pages?
48.
Ouais, ça doit être ça, une cinquantaine de pages sur les trois histoires.
Et donc après, t'as des compléments de.
T'as les photos de vacances.
Non, mais combien de pages ça constitue la suite?
Je crois que le bouquin fait 80 pages, non? C'est pas ça, 80-90?
Donc ouais, une petite moitié ou un tiers, quoi.
Ah ouais, non, c'est
c'est conséquent. Bref.
Après, c'est pas... l'éditeur a fait un effort sur le site.
C'est 10 euros
et quelques.
C'est 10 euros. Mais donc le contenu de fin d'album, alors pour moi, il représente vraiment peu d'intérêt. C'est une collection de photos principalement qui emmène, où on voit les auteurs, sur des lieux qui ont inspiré des sites marquants de l'histoire, notamment la grotte qui est en bordure de la presqu'île. Le problème, c'est qu'en fait on assiste à une collection de photos de vacances des auteurs et le seul intérêt, j'ai beaucoup aimé les photos des clés qui ont été fabriqués réellement. Cool. Donc il y a toute une série de clés.
Ils se sont fait plaisir à se créer des
souvenirs. Voilà, donc la clé de Titan, elle est complètement énorme. La clé de cerveau y est. La clé de genre y est. Enfin bref, il y a pas mal de clés qui sont là et ça donne presque envie de s'en acheter une. Mais.
C'était commandable à un moment sur le site américain.
On a bien réussi à vendre des baguettes d'Harry Potter. Pourquoi des clés de Lock and Key?
Ah oui, non, mais bien sûr. Alors, il parle. Je sais plus où dans l'album, mais de cet énorme succès de librairie que fut Lock & Key, je crois qu'ils se sont un peu emballés, parce que autant on est beaucoup à avoir apprécié cette série.
Surtout sur Arms, il y a un des plus gros pôles de vente.
Mais alors, je pense qu'ils sont un petit peu emballés sur les ventes européennes.
C'est à l'échelle du comics indépendant.
D'accord. Voilà. Les chiffres sont à regarder.
Exemple, pour des trucs qui se vendent à 100 exemplaires. Oh là, 2000, c'était beaucoup.
Non, Sullivan Rule, le patron d'iComics, a communiqué un peu sur Twitter là-dessus. Par exemple, Shanghai Red, dont j'avais parlé il y a 3 mois, a difficilement atteint les 500 ventes.
Ah oui.
Donc, un gros succès pour Lock & Key. Voilà,
oui, quand on a un 5000 exemplaires, c'est dingue. Plus,
Putain. Voilà. Donc, tu m'étonnes que sur Arras, on en ait vendu, que ça soit le plus gros vendeur.
Alors, bonjour Fred. C'est l'avis global pour ce hors-série. Il est quand même très mitigé. Alors, entre le plaisir de replonger dans l'univers de cette série que moi j'ai vraiment adoré, et puis la frustration totale en refermant le bouquin.
J'ai le sentiment que tu déconseilles un peu.
Alors, en fait, c'est un album qui trouvera grâce qu'aux yeux des ultra-fans qui ne voudront pas avoir un album manquant dans leur étagère. C'est le seul argument.
Laurent.
Et après, je vous conseillerais quand même de lire la première et la deuxième histoire, qui sont sympathiques, mais à un moment donné, elles sont vraiment trop courtes.
Oui, puis elles sont un peu, malgré tout, déconnectées de l'histoire principale.
Ouais. Alors, il y a des spin-offs qui sont déjà parus outre-Manche et qui sont attendus en Europe. Espérons très fort que leurs contenus seront plus denses et mieux structurés que.
Il y a un tome qui arrive en novembre. Il y a une histoire avec des. Oui, Franck, je file la parole après. Il y a une histoire avec des animaux qui devait sortir au moment du Free Comic Book Day France qui a été annulée. Donc, sachant que cette histoire-là devait sortir que dans ce format-là, on ne sait pas comment ça arrivera. Et après, il y a un crossover avec Sandman. Reste à savoir si ce sera iComics qui aura les droits ou Urban Comics, puisque Sandman est un personnage DC et Urban a l'exclusivité des droits. Voilà.
Voilà pour Lock and Key.
Et j'ai juste à dire, et
Ciel et Terre.
Ciel et Terre. Oui. Et pour ceux qui ont vu la série Netflix et pas lu le comics, ne vous basez pas sur ce que vous avez vu pour.
Pour juger.
Ouais, pour juger surtout pas.
J'ai pas vu la série. Donc,
J'ai craqué en cours de route.
Voilà.
Mais c'est rare, j'ai même pas été jusqu'au bout.
Au suivant.
Non, deuxième pause musicale. Wow. Parce qu'on est à l'avoue, on va.
C'est bien, on a fait deux albums.
Radiohead, Anyone Can Play Guitar.
Oh. On va s'en servir.
Et puis c'est bien mieux qu'une lef.
Bah voilà. Et ce sera le titre de l'émission.
Attends, faut continuer de la servir.
Tiens. Troisième partie des gardiens de la BD.
On a pas le temps de se servir des bières.
Bah ouais.
Il y a Franck qui dit qu'on n'a même pas le temps de se servir des bières.
On entend de loin.
Oui, je pense.
Alain.
Je vais vous parler d'un album sorti chez Fluide Glacial.
Tu fais vite, hein, s'il te plaît.
Réalisé par les Marco Bros.
Ouais.
Big G, Paris sous les bombes. Alors,
Paris plage.
Pardon, Paris ouais. Plage sous les bombes. Rapidement, c'est un ouvrage d'anticipation. En 2030, une grande dépression déclenche une troisième guerre mondiale qui est résolue en quelques heures. Le général Dacier, Dacier en un seul mot, tout collé, aussi surnommé général Dacier.
Comme Serge, parce qu'il a, le vendeur d'avions.
Parce qu'il a une mentalité de fer.
Ça
me fait marrer.
Rien que ça, m'a sorti de l'album.
Devient dictateur à vie jusqu'à ce qu'il y ait une deuxième révolution française. Et Marcel Marcelli ouais. est élu président.
Marcelin de... Marcelli,
ouais, ça ouais. doit être un Corse sûrement. est élu président de la République à vie. Ouais. Son programme, c'est regarder la télé, consommer tout ce que vous pouvez, vous serez heureux. Je fais très vite, Franck.
Je réfléchis.
Il transforme Paris, qui était le lieu de l'épicentre d'une explosion nucléaire, un peu comme Tokyo dans Akira, en plus belle résidence balnéaire, puisque avec des panneaux solaires qu'il installe, la température de l'air est à 26 degrés et l'eau à 28. Ça, c'est le contexte. On va suivre là-dedans Big G.
C'est là qu'on reconnaît que c'est l'été. Même la pluie, elle est chaude.
Ouais, c'est ça.
Big G, donc on est en 2064, vétéran des SEUF, super commando des États-Unis de France, et ancien membre des SEUF, service super secret des États-Unis de France. Voilà, oui, Franck, je sais, ça te fait pas rire, moi ça me fait marrer. Qui va vivre différentes aventures. Pour aller très rapidement, moi ça m'a beaucoup plu, c'est un mix entre alors Rank Xerox, Judge Dredd, il y a un peu de Akira, il y a un peu du Dark Knight Returns de Frank Miller. Le tout avec...
Et de Dragon Ball Z.
Et aussi, il ne faut pas oublier du Araki, le créateur de Jojo's Bizarre Adventure, pour toute l'imagerie homo-érotique qui parcourt l'album. Voilà, donc moi je le conseille fortement. Parce que ça fait du bien de rire pour vraiment de l'humour français bas de gamme. C'est pas si souvent que ça arrive. Franck, as-tu quelque chose à dire là-dessus ?
Non.
Ne le lisez pas ?
Bah écoute, moi je l'ai acheté. Tu vois, j'avais le PDF, ça m'a tellement fait marrer que je l'ai acheté.
Mais je comprends même pas, enfin marrer, sourire à la limite, mais je vois même pas comment tu peux te marrer
c'est
avec ça.
C'est tout ce que j'ai pas trouvé dans, même si c'est pas la même chose, dans Ramirez et tous les pseudo-comics français qui sont essayés d'être...
Oui, non, on n'est pas vraiment la même chose.
Ami auditeur, pardon, toi qui écoutes l'émission si souvent, ne lis pas cet album. C'est Nico qui le recommande.
Moi, ça m'a fait penser un peu à l'humour qui avait pu être développé dans Pascal Brutal.
Chez Fluide aussi.
On est dans une suite d'histoires, il y a quand même un fil conducteur qui va relier chaque chapitre.
Oui, la quête du frère, parce que c'est des petites histoires, parce que c'était prépublié. Alors d'abord dans Arg et après dans Fluide Glacial.
Ouais.
Il n'y a qu'une chose qui m'a plu dans cet album.
La dernière page. Mais voilà, si tu veux la suite, il faut acheter l'album pour savoir.
Ah, parce qu'il y a une suite ?
Apparemment, le général Dacier ne serait pas mort.
Ah.
Non, mais ça dépendra des ventes, c'est comme tout.
Graphiquement, c'est moche.
C'est vulgaire. L'ancrage,
il n'y a pas d'ancrage. Les couleurs, je pense que même Véronique et Davina, autant du fluo et des, tout ça, ça faisait moins mal aux yeux.
Il n'y
a pas un gros sens de la mise en scène. Tu vois, pourtant, il y a des bastons avec des gros gars, des gars bien bodybuildés. À la limite, lisez Last Man pour la mise en scène. Elle est nettement meilleure que ça. Pour des combats à la con qu'il peut y avoir dedans. Donc, la narration, mise en scène.
Il y a un peu de Last Man là-dedans, t'as raison.
Ouais, mais sauf que c'est mal fait à côté de ça. Et que l'humour de Last Man, il est, à mes yeux, mais
l'humour de Last Man, c'est les gonzesses, ils ont des gros seins.
Encore un résumé. Alors, à ce moment-là, le résumé de cet album-là, de Big G, mais je trouve rien de positif réellement à dire. je suis décontenancé que tu aies pu dire que c'était un album qui t'avait plu. Tu le mets pas dans ton top 10 quand même.
Alors, vu ce que j'ai aimé cette année, il y a des chances qu'il soit dedans parce que c'est mal barré pour que j'ai 10 albums en fin d'année.
Bon, eh ben on est bien rendu.
Putain. Non, mais alors, juste, je vais faire un truc que je fais jamais. Lisez-le. Allez-y, allez-y, lisez-le tous et faites-vous une idée sur ce qu'est un album préféré de Nico. Mais je vous en prie, hein, allez, je suis prêt à vous rembourser l'achat éventuellement. Au-delà de 4 ou 5 personnes, j'irai
ça
pas.
Va,
mais
ça va être Fred ça, qui va être content. Ça va être ça. Putain, le titre de l'émission. Je suis prêt à vous rembourser l'achat sur Big G. Là, tu prends des risques.
Big G, satisfait ou remboursé par France.
Si ouais. Ça leur plaît.
Ah, si ça leur... Bah, ils vont tous dire que ça leur plaît.
C'est bon. Je fais un justificatif et un mot de leur médecin et de leur mère.
Bon, et ben, c'était Big G.
Ouais, Big G, ouais.
Narcos Bros.
Lisez-le.
Voilà, chez Fluid, et faites ce que vous voulez.
Et Franck vous remboursera, de toute façon. Franck.
Qu'est-ce qu'on dit pas?
Tu vas enchaîner avec un ouvrage chinois.
Une œuvre, une romance.
Pas de blague.
À l'eau de rose.
C'est pas le moment de faire des blagues.
Non, je m'appelle pas Dembélé ni Griezmann.
Voilà. Voilà.
Oui, j'en ai entendu parler qu'aujourd'hui, tiens, de cette...
Allez, tac.
Et donc, c'est-tu un roman...
C'est une belle histoire.
Mais oui, c'est exactement ça. C'est une romance d'aujourd'hui. Conçue par Golo Zhao. Pas une Golo. Golo Zhao, c'est édité par Glénat. Ça sort après-demain, pour ceux qui nous écoutent en direct, à savoir le 7 juillet. 584 pages, quand même. C'est un one-shot. Grand format, on est sur du 17 cm x 24 cm. J'ai vu ça sur Internet, je crois que c'était sympa.
Ah, j'espère qu'ils ne vont pas faire un format souple comme c'est la mode. Là, en
alors, moi, j'ai peur que ce soit ça.
Oh là là là.
Et sur autant de pages, j'ai peur de la tenue de l'ouvrage. Ça raconte l'histoire de Ru Cheng, je ne sais pas comment ça se prononce, un petit chinois qui est en classe de 3e, la 3e 2, si je me souviens bien, qui est en fait surtout la classe pour laquelle il y a une option qui est art plastique. Et ce jeune homme gravite entre ses potes, ses deux potes, avec qui il aime bien traîner et avec lesquels il achète des cartes à collectionner. Mais cartes à collectionner pour un jeu de société, un peu jeu de rôle, si tu veux. Si vous
genre Magic.
Un peu genre Magic. Et d'un autre côté, son amour du dessin et du fait qu'il est fort en dessin, il est apprécié pour ça à son petit niveau, hein, mais il n'est pas bon en couleur. Et donc, l'histoire, la plus belle couleur du monde, vient du fait qu'il apprécie une jeune fille dans sa classe qui n'est pas la plus belle. Cheveux courts, ce qui n'est pas une référence chez les Chinois, il vaut mieux avoir les cheveux longs. Cheveux courts, lunettes, mais qui est douce et hyper talentueuse, surtout pour la mise en couleur. Et qui va lui enseigner au fur et à mesure de l'album. Alors, c'est pas ça le thème principal, mais par petites touches, qui va lui enseigner à se libérer, à essayer de mettre en couleur ses dessins, ses œuvres. À côté de ça, donc, avec sa bande de potes, il traîne à jouer, sauf que dans la bande, il y a un gros, et puis il y en a un autre qui est un peu la victime d'un gars qui fait du racket. Parallèlement à ça, on est sur une chronique douce amère de l'adolescence, donc il souffre aussi un peu, lui, de la comparaison des beaux gosses du collège, du beau gosse dans sa classe qui traîne avec la plus jolie fille de tout l'établissement. Et il va commencer à être jaloux à partir du moment où il va voir ce beau gosse de sa classe commencer à traîner avec celle qu'il aime bien, c'est celle qui est forte en couleur. Donc il comprend pas pourquoi ce beau gosse traîne pas avec la plus belle, mais traîne avec une un peu moins belle. Et tout ça sur fond de un peu de lutte des classes, parce qu'on est dans les années 90 en Chine, donc arrivent les Nintendo, les Game Boy, les choses comme ça, et ce qui fait que les trois copains ils se font un peu moquer parce qu'ils jouent à des jeux de cartes alors que les autres ils commencent à voir arriver du Japon
c'est autorisé déjà à cette époque là
les plus riches arrivent à les avoir
officiellement c'était pas
à les avoir sous le manteau, à montrer les jeux, donc ils sont un peu moqués les trois losers
alors qu'ils étaient complètement en avance sur leur temps. Non, derrière les jeux de cartes.
C'est ça, c'est pas démodé les jeux de cartes. Exactement. Donc, et la particularité de cet album, de ce one shot, c'est que c'est un manga qui est en couleur.
Ce n'est pas un manga, c'est chinois. C'est un manhwa.
Très bien. La particularité de ce manhwa, c'est qu'il est en couleur.
Comme et tous les autres trucs de Golo Zhao.
Possible.
La balade de Yaya, ça te dit pas?
Oui,
mais. Plein d'autres trucs qu'il avait fait, c'est souvent en couleur.
D'accord. Sauf que là, c'est un intérêt vis-à-vis de l'histoire.
Bah oui, puisque la couleur, c'est quand même un thème important de...
Et donc je ne vous révèle pas quelle est la plus belle couleur du monde, vous avez qu'à lire l'album, mais on est sur un album qui donc raconte le quotidien plutôt simple, plutôt agréable d'un adolescent, enfin agréable non, d'un adolescent qui...
Tiraillé on va dire.
Tiraillé entre les bons moments qu'il passe parce qu'il est reconnu en dessin, mais il aimerait bien être meilleur, il aimerait bien être fort en sport, donc il essaye de se mettre au badminton parce que les plus forts sont, et les plus beaux sont forts en badminton.
Mais en même temps, je me permets, tout le manga est colorisé.
C'est pas manga,
Nico. Hein, l'album. Ça s'est fait en chinois, c'est un manhwa.
Ouais, tu l'écris.
Avec un W. Vas-y.
C'est colorisé, toutes les pages sont colorisées ou c'est au fur et à mesure de l'apprentissage de la couleur qui est.
Tout est coloré. Tout est coloré et colorisé. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'il raconte, et, enfin, il joue pas la couleur excessive pour illustrer ce qu'il raconte. C'est-à-dire que, je vais pas vous faire un cours sur la mise en couleur, mais on utilise souvent la couleur opposée pour mettre de l'ombre dans un objet éclairé par le soleil, etc. Enfin, il y a plein d'effets. Par exemple, quelque chose qui est éclairé par le soleil, c'est la lumière, c'est jaune. Donc dans l'ombre, tu mets du violet. C'est la couleur complémentaire. Voilà, c'est pour ça que les ombres sont souvent en bleu, d'ailleurs, dans les œuvres. Bref, il joue pas tant que ça. Dans la mise en couleur.
J'ai jamais fait gaffe que c'était en violet les ombres.
Mais non, mais t'as jamais fait de dessin et de mise en couleur, donc tu t'es jamais posé cette question, c'est pas grave. Il n'y a pas de mort d'homme.
Non, mais
tu t'attends, dans les explications de ce manhwa, tu t'attends à ce que la mise en couleur soit raccord avec ce qu'ils expliquent, et pas forcément. La mise en couleur est très douce, très agréable. Franchement, c'est un album qui fait bien du chaud à son petit cœur.
Ah, c'est ce petit parapluie de papier dans un cocktail.
Au bord de Paris Plage.
Un cercueil, on appelle ça. Ouais. Tu sais, le cercueil, là, tu prends tous les alcools du bar.
Donc c'est frais, c'est légèrement émouvant, c'est un scénario en plus qui se révèle au final, sans qu'il y ait de twist phénoménal, qui se révèle plus intelligent qu'il n'y paraît. Il y a des liens entre les différents personnages auxquels on ne s'attend pas forcément. Alors maintenant que je vous dis ça, vous allez peut-être chercher en le lisant. Mais franchement, une belle chronique d'adolescence, ni pourrie, parce que ces dernières semaines on a pu en parler d'adolescence pourrie, ni parfaite, mais compliquée à vivre avec un amour pas forcément réciproque, enfin il cherche. Moi j'ai trouvé que c'était assez poignant, assez émouvant, j'ai pas tiré ma larme, ça sera pas mon top 10 non plus, mais j'ai bien aimé cette lecture, j'ai été jusqu'au bout de ces 584 pages.
Ouais, c'est argument de poids.
Ok, merci Franck, c'était la plus belle couleur du monde.
Oui, de Golozao chez Glénat.
On va faire la troisième pause musicale.
Ah bon ?
Bah ouais.
Eh ben, j'espère que ton morceau il est court. Hein.
On verra. Goodbye de Coral. I dernière partie des Gardiens de la BD.
T'aurais pas une goutte.
En direct sur PFM. Thibaut, tu vas nous parler de Paria, sorti chez Comics Initiative.
Ouais, Paria, dessin et couleurs de Boris Beuzelin, scénario de Tony Emerio. On se trouve à Paris, fin 19e siècle, ou plutôt Paris la Nouvelle, un Paris fantasmé façon steampunk. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au fait du terme, c'est en gros où la vapeur n'a pas totalement été supplantée par la fée électricité. La guerre civile fait rage, le peuple n'en peut plus de sa condition de pauvreté. Il n'avait pas de gilets jaunes à l'époque, donc il ne pouvait pas les mettre, mais ça nous fait totalement penser à ça.
Et il y a Marcel Marcelli qui arrive.
Et de l'indifférence générale, et Marcel Marcelli n'est pas là. Donc la révolution est en marche. Alors pour la contrer, le président ordonne à ses forces de l'ordre d'utiliser un gaz qui provoque de sévères brûlures, le gaz Majorel, du nom du peintre. Et une fois l'ordre à peu près rétabli, selon du point de vue duquel on se place, il y a un virus qui apparaît en ville. Il s'agit d'une mutation de ce gaz qui se répand comme une traînée de poudre et qu'on appelle la lèpre bleue. Pendant ce temps, il y a un mystérieux méchant qui est surnommé le Vieux, qui enlève 5 personnes, toutes dotées de pouvoirs à la fois extraordinaires et démoniaques. On ne connaît pas les réelles motivations de ce Vieux, on sait juste qu'elles sont a priori pas très louables. Alors pour arriver à ses fins, qu'on ne connaît pas vraiment, le Vieux va soumettre ses prisonniers à une série d'humiliations, à commencer par la nudité, la perte de la notion du temps ou l'isolement les uns des autres. Et ce tyran use aussi de torture. Alors chacun des 5 détenus est équipé d'un dispositif à télécommande qui est implanté au niveau de la nuque et qui permet aux Vieux de leur administrer une forte décharge électrique en cas de rébellion. Donc on est dans un steampunk où il y a quand même un peu d'électricité. Nos 5 héros, alors qu'on suppute que c'est des héros, mais on ne le sait pas encore, sont tous différents, mais ont en commun d'avoir donc des pouvoirs particuliers. Alors au fil des récits, on découvre Wilbur, qui est un homme sur...
J'adore ce prénom.
Wilbur, ça te fait penser à Bernard et Bianca, l'oiseau.
Continue.
Un homme surinfectieux, donc il est complètement recouvert de pustules, qui est aussi surnommé la Tonne, en raison de sa force incroyable. Alors il paraît gentil, il se mure rapidement dans un mutisme qui confère à la timidité, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en même temps, ça paraît logique parce qu'on se dit que dans sa vie, il a dû être mis au banc très régulièrement, vu son état. On rencontre Christine, qui est surnommée la femme invincible, par ses collègues de la léproserie. Il y a des refs, je pense, comme ça. Hein. Les gentlemen, la Ligue des Gentlemen. Il y a aussi beaucoup de refs là-dessus, notamment sur les costumes. Donc Christine, elle est surnommée la femme invincible par ses collègues de la léproserie. C'est l'hôpital pour les contaminés de la lèpre bleue. C'est la seule qui n'a pas besoin de combinaison pour approcher les malades. Mais en réalité, on apprend très vite que Christine est une vampire qui tente de réfréner ses pulsions, mais à la vue du sang, sa nature profonde, elle reprend ses droits dans une furie complètement incontrôlable. On a aussi Franz, un enfant à l'attitude énigmatique. Lui aussi, il ne parle quasiment pas. Son don, c'est celui de ressusciter les animaux. Et plus qu'un don, là aussi, on dirait que c'est une pulsion. La mort d'un animal lui est vraiment insupportable. Et puis, il y a Karamoko et Charlotte. On sait deux...
Karamoko
ouais.
Et Charlotte.
Ouais, Karamoko et puis Charlotte.
D'accord.
On sait d'eux qu'ils ont été enlevés à la Nouvelle-Orléans, qui se connaissaient a priori avant l'enlèvement, mais on ne sait pas encore ni comment ni pourquoi. Karamoko, c'est un homme noir avec un crâne complètement difforme. Son pouvoir, on ne le connaît pas encore, mais on sait qu'il devient le leader naturellement et assez vite de ce groupe de prisonniers. Mmh. Et puis Charlotte, c'est une femme brune qui est tout le temps effrayée, tout au long de l'album, elle est tout le temps effrayée, elle se met en retrait. C'est la seule qui a l'air d'avoir rien à faire dans cette histoire, jusqu'à ce que son pouvoir se manifeste lors de leur première mission, mais je ne peux pas vous en dire plus. Moi je trouve que les deux auteurs, donc Emerio et Beuzelin, créent un univers plutôt consistant.
C'est pas un one shot, c'est un tome 1.
C'est un tome 1 qui est posé par un résumé contextuel. Alors c'est pas une préface, mais c'est un résumé contextuel qui est à mon avis très important de lire et très réussi. Le récit il est chapitré, mais il n'est pas linéaire. On va osciller entre 1896, c'est l'époque principale de l'action, fin 19e, 1916, où on va faire un saut dans le temps, et 1415, notamment avec Christine, notre amie vampire.
Et graphiquement, juste en quelques mots ?
Graphiquement, c'est intéressant, dessin en trichromie, noir, gris, bleu et rouge, c'est aiguisé, on retrouve les techniques de trame de fond à point, façon Roy Lichtenstein. Très intéressant.
Ou les vieux comics de Marvel qui étaient comme ça aussi.
Et aussi, donc ça amène un côté vintage, comics vintage. Une galerie de fan art, couverture fan art en fin d'album, comme les comics. Bref, on sent un projet, en tout cas j'ai senti un projet très abouti, très réfléchi, qui donne envie de lire la suite des aventures des Parias.
Okay.
Prévu en 4 tomes.
Merci, bien envie. 4, d'accord.
C'est fini pour ce soir. On se retrouve, on ne sait pas encore, parce qu'il va falloir faire le planning des vacances.
Tu ne nous parleras pas de certains albums intéressants.
Pas comics. C'est vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire. donc on se retrouve un jour, peut-être.
Un jour, sûrement.
On sera à la rentrée, on sera en pleine quatrième vague, donc on serait même pas si on sera au studio.
Mais si, on sera vacciné.
Ouais, en attendant, à tout à l'heure dans vos rêves.